Nous allons nous plonger dans la parole de Dieu et puis pouvoir recevoir sa parole dans nos cœurs qui veut changer nos vies. Tu veux changer ta vie par sa parole. Seigneur, je veux te remettre ce moment parce que c'est un message délicat que tu m'as mis sur le cœur ce matin. Et Seigneur, je veux vraiment que ça se fasse avec tes mots. Je veux vraiment que ça se fasse avec ta pensée. Je te remercie, Seigneur, de conduire nos cœurs. Je te remercie que chacun puisse recevoir ce qu'il a à recevoir, Seigneur. Oui, merci, Père, parce que tu nous entoures de tes bras d'amour. Merci, Père, parce que ton désir, c'est que nous puissions accueillir ta parole, la vérité qu'est ta parole. Et je prie, Seigneur, que ce soit ta vérité qui soit proclamée ce matin, Seigneur, que vraiment ça puisse s'ancrer dans nos vies, que ta vérité s'ancre dans nos vies. Amen. Nous vivons depuis à peu près 50 ans maintenant, depuis mai 68, qui a marqué ce qu'on appelle la libéralisation des mœurs sexuelles, des comportements sexuels, quelque chose où on entre dans une société où on pourrait dire qu'il y a comme de l'hypersexualité. On en parle de plus en plus, pas forcément comme il faudrait, on voit de plus en plus de choses et ça a un impact sur nos relations aussi. On voit qu'il y a. Avant, c'était normal de se marier. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, la vie de couple, en particulier quand on ne connaît pas Dieu, ça n'a plus forcément de sens de se marier. On a de plus en plus de divorces, on a de plus en plus de séparations. Ou en tout cas, les mariages ou les unions, elles tiennent plus difficilement. Il y a beaucoup de divorces. Il y a des divorces, il y a des remariages. Tout ça aussi, ça a à voir avec la sexualité. Et comment nous, en tant qu'Église, on se positionne par rapport à cela? Qu'est-ce que la parole, elle nous dit de tout cela? Aujourd'hui, on voit aussi les formes de la famille qui évoluent par rapport même à ce que la parole nous dit de la famille. On voit des choix sexuels qui sont affirmés, qui ne sont pas forcément dans la parole, que ce soit voilà, vivre avec une personne de même sexe, que ce soit vouloir changer de sexe pour certains, certaines. Comment est-ce que nous positionnons? Comment l'Église se positionne par rapport à ça? Qu'est-ce que dit la parole par rapport à cela? Comment est-ce qu'aussi on accueille? Comment est-ce qu'on accueille des personnes qui ne sont pas forcément dans ce cadre tel que nous le connaissons, tel que la parole le dit, tel que nous comprenons ce que la parole dit. Voilà, ça fait beaucoup de questions pour l'Église. Et ce matin, je voudrais rappeler, dans la suite de ce que j'avais dit la dernière fois, qu'est-ce que dit la parole sur la sexualité? Dans quelle mesure, finalement, Dieu, il a de la place dans ma sexualité? Où est-ce qu'il est? Dans quelle mesure ce qu'il dit a de la place dans ma sexualité. Alors, je ne vois pas trop de jeunes là, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, c'est vrai que c'est délicat un message comme ça, parce que, voilà, il y a, oui, il y a plein de jeunes, ouais, c'est sûr. Mais voilà, il y a plusieurs générations. Donc, voilà, donc ça reste un message délicat et j'espère que toutes les générations pourront prendre quelque chose dans ce qui va être dit. Je rappelle ce que je disais la dernière fois. La première chose, la première fois qu'on entend parler de sexualité dans la Bible, c'est dans la Genèse. C'est dans Genèse 1, 27. C'est Genèse 1, 27 qui vient dire que nous sommes créés hommes et femmes et que nous sommes l'image de Dieu en tant que tel et nous sommes appelés à refléter cette image de Dieu jusque dans notre sexualité. Ça fait partie à part entière de qui nous sommes. Dieu nous a créés avec cela pour l'honorer, pour refléter son image. Et pour aussi qu'au travers de cela, la vie se propage selon ce qu'il a voulu, si tant est que on s'aligne selon le cadre qu'il a posé. Et je voudrais préciser beaucoup plus ce matin quel est ce cadre-là. Et donc, oui, où est Dieu? Quelle place a Dieu dans notre sexualité? En voyant trois questions ce matin. Quel est le cadre? Quel est justement ce cadre posé par Dieu pour vivre la sexualité? Et pourquoi est-ce qu'il est bon que la sexualité soit vécue dans ce cadre? Et enfin, comment est-ce que Dieu il veut agir dans notre sexualité? Le cadre posé par Dieu pour vivre la sexualité, beaucoup plus précis que Genèse 1, 27 encore, c'est au deuxième chapitre de la Genèse. En fait, si vous prenez la Genèse, le premier chapitre, Dieu vient parler de la création, c'est comme une sorte de panorama général. Il dit voilà tout ce qu'il va créer jusqu'à l'homme. Et puis, en Genèse 2, il reprend ce qui concerne beaucoup plus l'homme. C'est comme s'il faisait un zoom sur l'être humain. Et là, effectivement, de nouveau, il est question de sexualité. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Et là, l'homme se met à dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, c'est l'homme qui le dit à ce moment-là, mais on sait que c'est une parole de Dieu parce qu'à un moment, Jésus va reprendre cette parole en disant « Dieu a dit ». Effectivement, Dieu a dit cela. Et cette parole, c'est ce cadre donné à la sexualité. Cette parole, c'est comme, finalement, une sorte de programme pour la vie humaine. C'est une sorte, c'est un processus avec plusieurs étapes qui s'enchaînent. Et en fait, c'est un processus qui va dans l'ordre. Il y a un ordre. Il y a différentes étapes. Donc la première étape, c'est l'homme quittera son père et sa mère. Ça, c'est le premier maillon. Et du coup, après, c'est il s'attachera à sa femme. Donc ça, c'est le deuxième maillon. Ça veut dire que je ne peux pas vivre la deuxième chose sans avoir vécu ce qui précède. Et ensuite, les deux deviendront une seule chair. Donc, vous voyez, il y a un ordre. Il y a un ordre, c'est 1, 2, 3. On pourrait aussi l'imager comme une maison. Une maison qui commence par les fondations. Et la fondation, c'est... C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et puis après, c'est tout l'intérieur de la maison, par-dessus cette fondation qui se construit avec l'électricité, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour vivre dans une maison. Et l'homme s'attachera à sa femme, et la femme s'attachera à son homme. Et ensuite, les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est le toit. Ils deviendront un corps unique. Et là, on sait que ça parle de sexualité. Pourquoi? Parce qu'il est question de corps. Le mot hébreu qui est utilisé ici, c'est pour dire corps, chair. Alors que le couple, l'homme et la femme, c'est beaucoup plus qu'un corps. Il n'y a pas seulement une dimension physique dans le couple. Il y a plus que cela, n'est-ce pas? Quand on vient former un couple, en fait, c'est une nouvelle entité. On va dire qu'une personne plus une personne, finalement, ça fait trois personnes. L'homme, la femme et le couple. Et c'est une personne qui est, cette personne du couple, elle est unique. Elle a sa manière de fonctionner qui ne sera pas la même qu'un autre couple. Elle a sa manière d'être, de penser, voilà. Et de la même manière qu'un être humain, il est unique. Mais il est question de corps. Or, il n'y a pas que cela dans un couple. Donc, un couple, il n'y a pas qu'une dimension physique. Il y a une dimension aussi spirituelle, c'est-à-dire qu'on va chercher du sens à la vie ensemble. On va chercher à cultiver, à être en paix ensemble. Et il y a une dimension aussi émotionnelle, parce qu'on cherche à comprendre comment l'autre il fonctionne, ce qu'il pense, on respecte ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on sait que là, il est question de sexualité. En fait, c'est pour dire qu'il y a des étapes qui précèdent, des étapes qu'on ne voit pas forcément dans ce chemin-là. On pourrait rajouter, finalement, entre le premier, le dernier maillon, ils deviendront un seul corps, et il s'attachera à sa femme, on pourrait en rajouter un qui... Ils construiront leur unité spirituelle, ils vont chercher des projets de vie ensemble, du sens à la vie ensemble, et puis aussi... Ils vont aussi chercher à se comprendre l'un l'autre, chacun ce qu'il ressent. Donc toutes les étapes, elles ne sont pas marquées. Mais la sexualité, en fait, elle est appelée à se vivre à la fin de ce processus, à la fin de ce programme. Toutes les étapes, elles ne sont pas marquées. C'est comme nous, quand on est venu de la France à la Suisse, on est venu de Angers, en France, à la Chaux-de-Fonds. Toutes les étapes ne sont pas marquées, mais il a fallu passer par la douane, par exemple. Hein, c'était un passage obligé, donc on a pu le passer, pour ceux qui connaissent l'histoire, mais on a pu le passer. Mais voilà, c'est pas forcément dit quand je dis je vais d'Angers à La Chaux-de-Fonds. Mais il y a la douane qui est un passage obligatoire. Ben ça, c'est comme, voilà, il y a des étapes qui sont des passages obligatoires et qui ne sont pas forcément marquées. Donc la sexualité, c'est l'aboutissement de ce programme qui suit un ordre. Mais ça commence par, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et ça, ces deux étapes, c'est des étapes qui nous concernent aussi tous, que l'on soit en couple ou pas. Ça concerne la vie humaine, quelle que soit la manière dont cette vie s'est construite. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, ça parle de quoi en fait? En fait, les parents, ce sont ceux qui, au début de la vie humaine, ils vont répondre à tous ces besoins que l'on a, ces besoins profonds, ces besoins du corps, qui est bah, par exemple de se nourrir, qui est d'être en bonne santé, aux besoins d'hygiène. Et puis, ils vont aussi répondre aux besoins de l'âme. Et le besoin de l'âme, il y en a plusieurs. Il y a le besoin de se sentir en sécurité, sentir qu'il y a un cadre, il y a une structure dans notre vie. Par exemple, on va nous apprendre à traverser la route. Hein, il y a tout un code qu'il faut respecter. Il y a le besoin d'appartenance, de sentir appartenir à une famille, qu'on est des êtres humains, voilà, qu'on appartient à des personnes aussi qui nous aiment. On fait partie d'un groupe, on n'est pas tout seul. Il y a le besoin de sentir aimé, estimé, reconnu, valorisé. C'est en étant valorisé qu'on va pouvoir sentir qu'on a de la valeur soi-même. C'est en étant aimé qu'on va pouvoir aussi apprendre à s'aimer soi-même. Et puis, il y a aussi le besoin de s'accomplir, de réaliser des choses, des projets, du coup, de grandir dans la confiance en soi de cette manière. Donc, tout ça, les parents, ils vont répondre à ces besoins. Mais après, ben voilà, c'est l'homme, la femme sont appelés à quitter cela, c'est-à-dire quand ils deviennent adultes, ça va être à nous de répondre, de prendre la responsabilité de ces besoins et de répondre à cela, que ce soit au travers de tout ce que l'on va construire dans la vie, que ce soit au travers des engagements qu'on va prendre dans la société, du travail que l'on va choisir, des loisirs même, et puis surtout bah, des relations que l'on va construire. Des relations que l'on va construire. Quelles que soient ces relations, que ce soit des relations d'amitié, relations autres, mais aussi relations de couple. Et c'est cela aussi, s'attacher à sa femme. En fait, quand il est dit l'homme s'attachera à sa femme, ça ne concerne pas que le couple, ça concerne tout le monde dans le sens où l'homme, il s'attache, il est appelé à s'attacher à ce qui est différent de lui, à ce qui est nouveau. Et à partir de cela, il va construire quelque chose de constructif pour sa vie. Et donc, on est tous concerné par cela. Ensuite, c'est là que vient la sexualité, cette fois-ci dans le cadre du couple. Alors, je disais, on est tous concernés par cela, mais ça concerne aussi le couple au travers du mariage. C'est quoi le mariage? Au travers du mariage qui est une alliance. Le mariage, c'est une alliance, c'est-à-dire que là, on va quitter son père et sa mère. Alors, ça prend diverses formes dans les cultures qui nous entourent, le mariage. Mais je dis ça parce que parfois on peut se demander, mais finalement, voilà, on sait, est-ce qu'on a besoin de passer devant les autorités pour se jurer fidélité, pour être fidèles l'un à l'autre? Le mariage, en fait, c'est un acte qui est à la fois spirituel et à la fois social. C'est un acte où on vient, voilà, déclarer devant Dieu et déclarer devant les autorités humaines et déclarer même devant le ciel que on a choisi cet homme. On a choisi cette femme, on a renoncé à toutes les autres femmes pour cette femme, on a renoncé à tous les autres hommes pour cet homme. Donc c'est vraiment un acte qui est important parce qu'au travers de cela, c'est là qu'il va y avoir un engagement, c'est là qu'il va y avoir une alliance. Et du coup, il va y avoir de la sécurité. Et puis après, on va s'attacher ensemble, justement en répondant à ces différents besoins auxquels les parents répondaient. La relation de couple, c'est la relation au travers de laquelle on va particulièrement répondre à ses besoins. Mais on va y répondre dans la sécurité, dont on ne peut pas forcément répondre dans toutes les autres relations. Et c'est là que la sexualité est importante. La sexualité, ça va faire qu'on va répondre à ses besoins, on va répondre à ses besoins de se sentir aimé, de se sentir reconnu, de se sentir appartenir, etc. D'une manière que toute autre relation ne peut pas. Donc le Seigneur, il a prévu aussi la sexualité pour cela. Mais pour que ça puisse se vivre, ben, il est important que ça se vive dans la sécurité à partir du moment où il y a cette alliance qui a été posée, à partir du moment où on a appris à s'attacher l'un à l'autre avant même de se connaître dans notre intimité corporelle. L'attachement, ça passe d'abord par ben, voilà, quel est le sens de la vie ? Quel sens on va donner à la vie ensemble ? Comment on va marcher ensemble dans la vie ? Quel projet de vie on va avoir ensemble ? Et l'attachement, ça va aussi passer d'abord, avant de se connaître par la sexualité, ça va passer par comment respecter l'autre dans ce qu'il pense, respecter l'autre dans ce qu'il ressent et apprendre à le connaître. Et on a besoin de tout ça pour que la sexualité, elle puisse se vivre dans la sécurité et dans quelque chose qui va faire que bah, vraiment ça va répondre à nos besoins, dans quelque chose qui va faire qu'on va grandir avec cela et puis du coup, ça va permettre à la vie que Dieu a prévue vraiment de se développer. Donc c'est pour ça que cet ordre, il est important. C'est pour ça que cet ordre, il est important. Et c'est dans ce cadre-là que la sexualité, elle est appelée à être pleinement vécue. Dans toutes ses dimensions. Parce que la sexualité aussi, finalement, elle n'est pas que physique. La sexualité, elle est aussi spirituelle. Dans le sens, au travers de la sexualité, eh ben, on va honorer Dieu. Ça va être une louange. Ça va être une adoration vers Dieu. Et la sexualité aussi, elle est aussi émotionnelle parce qu'on va partager des choses ensemble, ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Et enfin, elle est physique. Mais la sexualité aussi, pour se vivre, eh ben, elle a besoin de passer par ces étapes pour qu'on se sente respecté l'un l'autre. C'est comme ça que le Seigneur, il a construit ben, le fait de se respecter l'un l'autre, dans le couple en particulier. Alors là, j'ai beaucoup parlé du couple, mais on a tous la dimension de la sexualité dans notre vie, que l'on vive en couple ou que l'on vive seul. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre sa sexualité, du coup, quand on est seul ? Alors, la sexualité, c'est pas forcément un besoin vital, en fait. On peut vivre sans sexualité. On ne peut pas ne pas manger, on ne peut pas... ne pas respirer, mais par contre, on peut vivre sans sexualité. Il y a même des personnes, ils n'ont pas forcément de besoin de ce côté-là. Ils ne vont pas forcément les vivre. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Mais voilà, la plupart, on est avec cela en nous. C'est ce que Dieu a mis pour que l'on puisse construire vraiment des relations, investir les relations telles qu'il l'a voulu. En fait, la sexualité... Finalement, c'est la manière dont Dieu il a voulu qu'on l'on vive, une des manières dont Dieu a voulu qu'on l'on vive le plaisir. Mais il y a différentes formes de plaisir. Il n'y a pas que la sexualité qui est une forme de plaisir. Et en fait, la sexualité, c'est comme une énergie de vie. C'est comme une énergie vitale. Dieu, il a déposé la vie en nous qui s'exprime comme cela. Et c'est comme cela qu'on va rechercher le plaisir de cela. Mais après, comment est-ce que l'on fait quand, du coup, on ne vit pas en couple ? En fait, la sexualité, ça fonctionne comme ça. On a un circuit dans le cerveau, qui est le circuit de la récompense, et qui fait que, voilà, ça, on va chercher du plaisir au travers de ça. Et quand on va avoir du plaisir, notre cerveau, il va en redemander. Mais voilà, il n'y a pas que la sexualité comme forme de plaisir. Et quand on ne peut pas vivre la sexualité, ce que l'on va pouvoir faire, c'est essayer de vivre d'autres formes de plaisir, que ce soit investir son corps dans du sport, que ce soit des activités intellectuelles, des activités culturelles, et que ce soit surtout aussi des activités spirituelles. On peut prendre du plaisir dans la relation à Dieu. À côté de ça, voilà, il y a le fait que même si on fait ça, on essaye de déplacer les choses, on vit avec des pulsions, on a des pulsions. Et c'est une réalité qu'il ne faut pas non plus nier. Voilà en tout cas pour ce qui est de ce cadre que Dieu a posé pour vivre la sexualité. Alors pourquoi, en même temps, est-ce qu'il est bon que la sexualité, elle soit toujours vécue dans ce cadre. D'une part, parce que c'est une loi divine, en fait. C'est une loi divine. Quand à un moment, il y a des juifs qui viennent parler à Jésus en venant lui poser des questions sur le divorce, donc voilà, c'est tout ce qui concerne les relations et ça inclut justement la sexualité, on peut imaginer que toutes les questions que j'ai posées au départ, si on venait les poser à Jésus, il viendrait répondre ça. La seule chose que dit Jésus sur la sexualité, c'est cela. En fait, il vient rappeler quel est le cadre. Il dit, le cadre, c'est celui-ci. La sexualité, elle est appelée à être vécue dans le cadre de la relation de couple pleinement. Donc déjà, c'est une loi. Mais aussi, ce qui s'est passé avec le péché, c'est que le péché a tout déréglé. Le péché a tout déréglé et tous ces besoins auxquels les parents répondaient au départ, personne ne peut répondre à tous ces besoins pleinement, finalement. On va tous grandir avec le sentiment qu'on n'est pas forcément toujours complètement aimé. On va tous grandir en se sentant pas forcément complètement reconnu. On va tous grandir en se demandant, mais en se sentant parfois seul. Le péché a fait que ça a déréglé tous ces besoins. Et en fait, le problème, c'est qu'on va avoir tendance à aller par la sexualité à chercher à répondre à ses besoins. Sauf que quand on fait cela, on fait de la sexualité une idole. On va être tenté de soigner finalement le fait que ses besoins soient délaissés. Ce n'est pas forcément parce que les êtres humains ne peuvent pas répondre complètement à ses besoins. C'est aussi parce qu'on vit des choses dans la vie où on va être blessé dans notre sexualité. Il y a des personnes qui vont vivre des abus, des choses comme ça. Et en fait, on peut être tenté par la sexualité de répondre à ses blessures, d'essayer de soigner ses blessures en dehors de cette loi finalement. Parce que finalement, quand on vit en couple, la manière dont on va choisir la personne avec qui l'on va vivre, la manière dont notre sexualité va s'exprimer, toutes les pensées que l'on va avoir, toutes les attirances que l'on va pouvoir avoir, finalement, ça parle de ses besoins. Ça parle de ces besoins auxquels on cherche à répondre et que le péché est venu dérégler. Et parfois, du coup, on va essayer de prendre les choses pas par le bout que Dieu souhaite, notamment en vivant, par exemple, la sexualité alors qu'il n'y a pas eu d'engagement. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger. On ne peut pas juger la sexualité. On ne peut pas juger une personne qui, par exemple, est attirée par le même sexe. On ne peut pas juger une personne qui va vouloir changer de sexe. On ne peut pas juger une personne qui va être liée avec la pornographie. On ne peut pas juger une personne qui va avoir différents problèmes comme ça. Parce que derrière, il y a des blessures. Derrière, il y a quelque chose où on essaye de répondre à ces besoins qui ont été blessés. Dieu veut agir dans notre sexualité. Dieu veut agir dans notre sexualité en nous replaçant dans cette loi, en nous réalignant dans cette loi telle qu'il a prévu les choses. Et Dieu veut aussi agir dans notre cœur en nous restaurant par Jésus. Jésus, il rappelle cette parole. Il rappelle cette parole quand les Juifs viennent lui dire « Mais Moïse a prévu qu'on puisse répudier notre femme. Toi, qu'est-ce que tu dis ? Est-ce qu'on a le droit vraiment de le faire ?» Et là, Jésus répond cette parole et en même temps, il leur dit, c'est parce que votre cœur est dur. C'est parce que votre cœur est dur que Moïse a permis cela. Et donc, Jésus vient bien dire qu'il y a quelque chose par rapport au cœur, que ce sont vraiment des choses délicates. Et Jésus, en même temps, il pose cette loi, mais il vient dire aussi, mais voilà, je sais que le cœur de l'homme, il est brisé. Je sais que le cœur de l'homme, il est blessé. Et quand on le voit accueillir, par exemple, la femme adultère, quand on le voit accueillir la femme samaritaine qui passait de mari en mari. Jésus, finalement, à la fois, il rappelle ce cadre de Dieu, mais à la fois, il vient dire que, voilà, il faut entendre que la manière dont tout cela, ça s'exprime, on a fait comme on a pu par rapport au péché. Et que lui, il est venu pour redresser les choses, mais pas avec jugement. Pas en culpabilisant, mais en essayant de comprendre, ben voilà, si je ressens cela, si je suis attiré par telle chose, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Qu'est-ce que ça veut dire de ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que ça veut dire de mon histoire? Qu'est-ce que ça veut dire d'éventuelles blessures aussi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ben voilà, je vais croire que la sexualité, c'est ce qui va me rendre heureux, absolument, jusqu'à la vivre finalement en dehors du cadre que Dieu a prévu. Qui est-ce qui répond finalement à tous ces besoins? Dieu, il a prévu des relations humaines pour répondre à ces besoins qui sont profonds. Mais finalement, c'est Dieu qui répond. C'est Dieu qui installe toutes ces choses. Et il y a un premier besoin auquel aucune relation humaine peut vraiment répondre. Il n'y a que Dieu qui peut répondre. On a un besoin. Notre corps a des besoins, notre âme a des besoins, mais notre esprit aussi a des besoins. Notre esprit, il a besoin déjà de donner du sens à la vie et d'aller surtout dans le sens de la vie. Notre esprit, il a besoin d'être en paix. D'être en paix avec Dieu, d'être en paix avec soi, d'être en paix avec les autres. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Et ce n'est jamais une relation humaine qui nous le donnera. Il y a ces différents besoins auxquels Dieu répond. Et c'est à partir du moment où je place Dieu en premier que du coup, il va réordonner les choses. On pourrait dire, si je reprends là, cette chaîne, donc ce programme qui est dans l'ordre, c'est comme si le péché, je vais vous le montrer là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est comme si le péché, il avait fait ça. Et tout est confus. Pas si vous voyez, tout est confus, on ne sait plus par quel bout prendre les choses. Et c'est là qu'on va se dire, ben voilà, c'est pas grave si je vis sans être marié ou ce genre de choses. Je prends les choses par un bout, mais c'est pas ce que Dieu a prévu. Et Jésus, en restaurant les choses, il va prendre les choses par le bon bout, et qui est de mettre Dieu en premier. Et là, il va réordonner les choses. Dieu veut agir dans notre sexualité. Et ce message, il n'est pas seulement important pour nous, il est aussi important pour des personnes qui ne vivent pas dans ce cadre et qui n'ont pas encore rencontré Jésus, pour que nous puissions être vraiment pleins de compassion aussi pour les personnes et pas dans le jugement, mais vraiment, quand les choses ne se vivent pas dans le cadre que Dieu a prévu, c'est que derrière, il y a des souffrances. C'est que derrière, il y a des souffrances. Voilà, j'ai essayé de vous donner ce message comme j'ai senti que je pouvais le faire. Là, je voudrais vraiment qu'on se place dans la présence de Dieu. On place dans la présence de Dieu, on peut tous fermer les yeux. On peut tous fermer les yeux et vraiment accueillir la présence du Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut faire et ce qu'il veut faire dans notre vie? Je te propose, si tu le souhaites, de mettre la main sur ton cœur. De mettre la main sur ton cœur en signe que voilà, tu laisses le Seigneur agir. Tu crois que c'est le Seigneur qui agit dans ton cœur. Je te remercie, Seigneur, de qui tu es. Je te remercie, oui, parce que tu nous as créés. Je te remercie parce que tu veux être notre Père. Seigneur, tu nous as créés pour que nous soyons tes enfants. Pour que nous soyons tes fils et tes filles. C'est ça, Seigneur, notre identité en toi. Et Seigneur, tu vois comment le péché a bouleversé les choses. Pardon, Seigneur, pour t'avoir tourné le dos. Pardon, Seigneur, pour ces moments où on n'est pas aligné sur ta parole. Et Seigneur, je te remercie de nous aider à nous réaligner. Je te remercie, Seigneur, de visiter chacun d'entre nous, Seigneur, et toi, par ton esprit, tu mets la lumière sur les choix que l'on a faits dans notre vie, sur là où on en est, Seigneur. Est-ce que, Seigneur, tu as ta place dans nos relations les plus intimes? Est-ce que tu as ta place dans notre intimité? Je te remercie, Seigneur, de venir nous montrer ce qu'il en est, Seigneur, dans notre vie. Et Seigneur Jésus, tu es venu restaurer notre cœur. Alors je te présente notre cœur à chacun. Et tu vois, Seigneur, tu connais la vie de chacun. Et je te remercie, Seigneur, de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. Je te remercie, Seigneur, de montrer pourquoi il y a telle ou telle chose dans le cœur, pourquoi par rapport à la manière dont chacun vit sa sexualité, il y a telle ou telle chose. Et je te remercie, Seigneur, pour ta restauration. Et j'appelle ta restauration maintenant. J'appelle la puissance de ton nom, Seigneur. Je proclame la puissance de ton nom sur tout cela. Je proclame la puissance de ton sang sur tout cela qui vient restaurer toutes choses dans notre cœur. Qui vient réaligner les choses, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de nous donner la force de suivre ta parole. Il n'y a que toi, finalement, qui a pu suivre la parole de Dieu d'une manière parfaite. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, c'est un chemin que de se laisser restaurer. Et je te remercie, Seigneur, de nous guider dans ce chemin. Je veux te remettre aussi toute la jeunesse dans l'Église. Toute la jeunesse dans l'Église pour qu'ils puissent vivre la sexualité dans le cadre que tu as prévu aussi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que par ton esprit, vraiment, tu les convainques. Tu les convainques que de cette manière qu'ils pourront être aussi protégés et que c'est de cette manière qu'ils pourront vraiment amener la vie que toi tu veux amener. Et Seigneur, enfin, je te remercie d'élargir l'espace de notre cœur. D'élargir l'espace de notre cœur pour que nous soyons pleins de compassion aussi par rapport à toutes les situations que l'on voit qui ne sont pas forcément en accord avec ta parole. Mais Seigneur, que tu nous donnes les mots, que tu nous donnes l'amour pour pouvoir aller, pour pouvoir accueillir les personnes avec ce qu'elles vivent, là où elles en sont, Seigneur. Tout en étant vraiment les pieds fermes sur le rocher que tu es, pleinement en accord avec ta parole. Seigneur, vraiment que tu nous remplisses d'amour et de compassion pour pouvoir guider vers ta parole, Seigneur. C'est ton Saint-Esprit qui œuvre dans les personnes, Seigneur. Et vraiment que nous puissions être des ambassadeurs de qui tu es, des ambassadeurs de ton esprit. Ouais, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur. Amen.